Ben non, justement. Je suis même un peu embêté parce qu'il n'y en a pas avec ce que je vais dire. Ah, zut. Sauf que peut-être que si. Mais elle est subtile, elle s'impose pas, c'est pas un truc vraiment éclatant, c'est pas les mêmes mots. Mais je crois que ce qui vient de s'exprimer, eh bien, c'est presque la conclusion de ce que je vais dire. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais vous remettrez dans le bon ordre. Vous allez me dire, hein, juste pour être sûr, pour pas tricher, comment est-ce que quel mot vous pourriez mettre sur ce qu'on vient d'exprimer? Allez, un petit sondage. Hop. Laurent, tu as ton opinion? Et tu la partages? Ouais. Ouais, voilà. Et jusqu'au bout, et il règne dans nos vies, il y a eu plusieurs chants qui parlaient de la majesté, de sa grâce, de son règne. Vous allez me dire, ce sont des thèmes qu'on développe tout le temps, oui. Mais je trouve que particulièrement ce matin, c'était cohérent. Il y a un autre terme que vous mettriez là-dessus? Pas là-dessus, sur ce qu'on vient de dire, je veux dire. Ouais. Ouais, c'est un peu, ouais. Moi, j'avais envie de... Enfin, il me semblait que ça parlait de consécration. J'ai une voix bizarre, c'est la mienne.
Trop de basse.
Ça résonne, c'est bien.
Ça résonne, c'est normal.
C'est mieux comme ça ? Voilà. Un jour, on aura une salle avec une technologie en place à chaque fois. On n'aura pas besoin de bidouiller. Bien. Alors, ce matin, et gardez en tête un peu la petite introduction que j'ai faite, et j'aimerais avoir du retour et que vous me disiez s'il y a quelque chose, un fil conducteur. Voilà. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler d'un passage de Jean, chapitre 17, des versets 14 à 17, pardon. Jean 17, 14, 17. Et ça m'est venu à l'esprit parce que dimanche dernier, on a parlé de l'Église persécutée. Et à chaque fois qu'on en parle, ben je me dis qu'on n'en parle pas assez et qu'on oublie trop vite, qu'on passe à autre chose. Je me dis que si quelqu'un parmi nous avait un frère ou une sœur dans la famille, hein, qui subirait ce que ces gens-là, ces frères et ces sœurs, vivent, je pense qu'on en entendrait parler, déjà dans l'Église. On serait tous à faire une manif chez le préfet, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, pour nous battre contre une situation inacceptable. Mais quand ça arrive si loin, dans des pays si lointains, eh bien, on réagit beaucoup moins, on est moins concerné, et puis on est tellement occupé. Moi, le premier, hein. Mais on serait peut-être quand même en droit de se demander pourquoi la persécution, pourquoi tant de haine et de malheur, pourquoi Dieu permet. Ça, c'est une question qu'il faut poser avec beaucoup de respect. Mais oui, pourquoi Dieu permet la persécution? Eh bien, je crois que la réponse est dans le passage qu'on a lu justement dimanche dernier, qui était dans le canevas de Portes Ouvertes, et c'est ce passage de Jean 17. 14, 17. Donc c'est Jésus qui parle et qui nous dit. C'est une prière, hein. C'est la prière sacerdotale. Il s'adresse donc à Dieu. Et il dit: je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, comme souvent dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle, je trouve que c'est un peu presque poétique dans le vocabulaire. Il y a des répétitions. Il y a plusieurs fois, il répète, donc, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Même la tonalité est un peu mystique, je trouve. Mais il ne faut pas se laisser se laisser intimider par cette formulation. Il faut au contraire voir derrière les profondes vérités spirituelles que Jean exprime, et il faut s'attacher à comprendre ce qui est dit. Et qu'est-ce qui est dit ? Eh bien, Jésus commence par une constatation. Il dit qu'il nous a donné la parole de Dieu, l'Évangile, l'annonce du salut par la grâce, et que le monde, c'est-à-dire bien tout ce qui nous entoure, qui ne vit pas selon Dieu, qui vit selon d'autres principes, et le monde nous déteste à cause de ça. C'est presque une conséquence automatique. Jésus a donné la parole et le monde nous déteste. C'est étrange. Pourquoi, à votre avis ? Parce que, et Jésus le dit après, nous ne sommes pas du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on est des extraterrestres ? Est-ce qu'on ne vit pas dans le même monde que les autres, dans la même réalité ? Ça veut dire que nous ne faisons pas partie de ce monde où on vit sans Dieu, où on vit selon ses propres désirs, selon ses propres règles. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais il y a énormément de pubs en ce moment, je trouve, à la télévision, où en gros on nous dit « mais fais tes propres règles et vis selon tes propres lois, fais ta propre volonté ». C'est un discours très nietzschéen. On vit dans le monde selon une conception très personnelle parfois et très arrangeante de la morale, du bien et du mal, souvent sans trop se soucier des autres. Ou alors, bien souvent, c'est intéressé, parce que même ceux qu'on aime, bien souvent, on les aime parce que ça nous fait du bien. C'est un peu ça, le monde, en fait. Et c'est la partie la plus soft, on va dire, parce que ça peut aller beaucoup plus loin. Mais quand on est à Christ, quand on a reçu la parole de Christ, eh bien, on sort de ce mode de fonctionnement, on sort de ce monde-là. Et même si on ne se rend pas compte au début, hein, je pense, mais assez rapidement, on s'aperçoit que, eh bien, on ne partage plus les mêmes principes. On n'a plus forcément le même sens de l'humour, on ne rigole plus aux mêmes blagues. On n'a plus forcément les mêmes valeurs, on a d'autres priorités. Et puis surtout, on n'a pas du tout les mêmes motivations dans notre vie. Et donc, ça pose un problème. Ça remet en cause des pratiques bien établies, des manières de vivre qui ne dérangent personne parce que tout le monde fait comme ça. Et du coup, ça crée une certaine séparation. On n'a plus les mêmes fréquentations, parfois on perd même des amis. On devient en fait comme des étrangers. Et vous savez ce que c'est la xénophobie, c'est-à-dire la haine des étrangers, ou la peur. Phobie en grec, c'est un peu les deux. Et je pense que s'il y a haine, c'est parce qu'il y a peur. Et peur de quoi ? Eh bien, de l'étranger qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même manière de vivre, qui n'a pas la même manière de parler, pas le même physique, et donc on le rejette, on le déteste et on le hait. Eh bien ici, c'est une sorte de xénophobie spirituelle. La différence, elle est spirituelle. Et il y a trop de différences, donc il y a un rejet, il y a de la haine. Et c'est normal. Mais on voit au verset 15 que si on n'est pas du monde, si on ne participe pas à ça, néanmoins, on est dans le monde. Jésus ne demande pas qu'on soit enlevé du monde, c'est-à-dire peut-être mis à part, comme des moines dans un monastère, avec des beaux murs bien épais autour, pour être bien protégé des agressions du monde. Il ne demande pas non plus que Dieu nous prenne auprès de lui dans une sorte de paradis spirituel au-delà du monde. Non, on reste là. On est dedans, on est même bien dedans. Avec tout ce que ça implique, eh bien, de complexité, de lutte et de souffrance. En tout cas, toujours au verset 15, il faut bien noter que le Seigneur demande une protection toute spéciale de la part de Dieu. Il lui demande de nous garder du malin, ou du mal, suivant les traductions. De toute façon, c'est lié. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y a du mal sur la terre, et en particulier contre ceux qui appartiennent au Seigneur, mais c'est parce qu'il y a un malin, c'est-à-dire celui qui veut faire le mal, qui est en révolte contre Dieu, et qui fait en fait de nous, de nos vies, l'enjeu de sa lutte et l'objet de sa haine. Et lui, c'est le prince de ce monde. C'est ce qu'on lit dans Jean 12 au verset 31. C'est le diable, c'est l'ennemi de Dieu, donc notre ennemi. Et c'est pour ça aussi que le monde, qui lui appartient, tant qu'il n'y a pas de conversion, chaque personne lui appartient, et bien donc il y a cette hostilité, cette haine envers ceux qui ne lui appartiennent pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entre les mains de Dieu et sous sa protection. Le verset 16 répète que nous ne sommes pas du monde comme Jésus n'est pas du monde. Alors toujours dans la parole, quand il y a une répétition, ce n'est pas du radotage, c'est parce que c'est important. Et ce qui est important, en fait, c'est de réaliser qu'on doit être comme Jésus, qu'il y a une ressemblance qui doit aller jusqu'à l'identification, et à tous les niveaux. Jésus a été rejeté et il a souffert. Nous aussi, inévitablement, normalement, on y aura droit. Jésus a payé le prix pour accomplir la volonté de Dieu. Il a payé le prix fort. Eh bien, si on est à la ressemblance de Christ, nous aussi, on doit être prêt à faire de même. Peut-être sous d'autres formes, on ne va pas se faire crucifier. Ça a été fait une fois pour toutes. Dans d'autres domaines aussi, peut-être, dans nos vies. Mais si on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout en raison de ce qui nous pousse à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, eh bien, on passe à côté du sens de notre vie. Et le verset 17 nous donne certainement la clé pour comprendre et vivre cette situation intenable. C'est la sanctification par la vérité. Sanctifie-les par la vérité ou par ta vérité. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la sanctification ? Eh bien, c'est la vérité qui vient de Dieu, donc la parole, qui fait que nous sommes saints, c'est-à-dire consacrés à Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, lorsque Salomon a fabriqué un temple pour honorer Dieu, il y a eu des instruments et des objets qui ont été consacrés à Dieu, qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire qu'ils ne servaient qu'à cet usage-là. Ils ne servaient pas à faire autre chose à côté, c'était vraiment réservé pour le culte de Dieu et pour la gloire de Dieu. Eh bien, dans nos vies, c'est ça aussi. La sanctification, c'est être tout entier à Dieu et ne pas être mélangé avec le péché, avec la convoitise, avec ce monde, avec tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est vraiment être mis à part. Être aussi, pour nous, en tant qu'individus, être conforme à ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça, c'est possible seulement si on laisse agir le Saint-Esprit en nous, pour nous transformer, pour nous réformer, suivant ce que Dieu veut faire de nous. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu, nous dit le texte. Alors, en premier lieu, c'est la Bible. Mais je crois aussi, comme dit Jésus dans Matthieu 4, au verset 4, que cette vérité, c'est aussi toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Matthieu 4, Jésus répond à l'ennemi qui vient le tenter. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que c'est, en fait, ça dénote une attitude qui est d'être attentif à la parole de Dieu sous toutes ses formes et réceptif à son action. Et à ce stade-là, si on a cette disposition d'esprit, eh bien, on n'a plus rien de commun avec le monde. Et là, c'est vraiment la séparation irrémédiable. Mais par contre, ça a un sens, celui de servir le Seigneur. Alors, ce passage de Jean 17, 14-17, ça me rappelle un chapitre du livre de Francis Chan, « Lettre à l'Église », qui est là. C'est ce livre qui est excellent, que je vous recommande, que Sylvie m'a passé il y a quelque temps et qui est vraiment excellent. Et donc, il y a un chapitre qui s'intitule « Crucifié ». Donc, vous comprenez bien que ça parle de Jésus. Et donc, il commence en donnant l'exemple des épreuves Ironman. Vous connaissez ? C'est une épreuve sportive. Pardon ?
Je connais.
Tu connais ? Tu as participé ?
J'ai lu.
D'accord. Ironman, pas Hawaï. Et donc, c'est 4 km de nage, 180 km de vélo, 42 km de marathon. Et avec le sourire. Donc voilà, il disait, si on vous propose de venir voir cette épreuve-là, de venir voir les sportifs qui sont vraiment des athlètes de haut niveau, eh bien, je pense qu'on viendrait tous, il y aurait du monde. Mais après, il ajoute, mais si on vous demandait de les suivre, de faire comme eux, il y aurait certainement beaucoup moins de volontaires. Et en fait, chez nous, en Occident, en France, eh bien, il y a des millions de personnes qui se disent chrétiens, et souvent de manière sincère, parce qu'ils pensent qu'être chrétien, c'est admirer le Christ, son exemple, sa vie, son œuvre, et être vraiment le supporter, même comme ses sportifs. Mais en fait, être chrétien, c'est suivre l'exemple de Christ. Et là, c'est tout autre chose. Du coup, si on est obligé à ceux qui se disent chrétiens à vivre comme Christ, là aussi, il y aurait beaucoup moins de monde. Et pourtant, c'est parfaitement clair. C'est l'Évangile. Nous sommes appelés à croire en la crucifixion de Jésus, mais nous sommes aussi appelés à être crucifiés avec Christ. Et ça, c'est un discours, effectivement, qu'on n'entend pas trop, ou on l'entend et c'est vite, on passe vite à autre chose, parce qu'on a plus l'habitude de parler des bontés, de la grâce, et c'est vrai, c'est juste. Mais il y a aussi l'exemple de Christ. Et suivre son exemple, ça signifie, eh bien, renoncer à soi-même, ça signifie accepter parfois la souffrance, voire même la persécution, comme nos frères et sœurs dont on parlait la semaine dernière, et qui, eux, vivent dans leur chair, dans leur vie de tous les jours, la persécution est parfois la pire. Et donc, ce que dit Francis Chan, qui est un pasteur américain, qui est d'une méga-church américaine avec des milliers de membres, mais il se dit qu'en fin de compte, on n'a peut-être pas tout dit. C'est-à-dire les croyants bien intentionnés, certains courants religieux, on n'a peut-être pas prêché tout l'Évangile. On a peut-être un peu laissé entendre qu'on pouvait devenir chrétien juste en répétant une prière qui demande à Jésus de devenir notre sauveur personnel, et que Dieu veut notre bonheur, notre prospérité, et que si on est raisonnable, en gros, eh bien on n'aura pas à subir trop de conséquences de notre foi. Alors, c'est absolument vrai. Il suffit de demander à Jésus d'entrer dans notre cœur, de se repentir, et on est sauvé. Ça, c'est sûr. Mais c'est que le début. C'est vrai aussi que Dieu veut notre bonheur, et il veut pour nous une vie heureuse. Ça, j'en suis certain aussi. Mais peut-être pas comme on l'imagine. En tout cas, peut-être pas avec nos critères, parce qu'autrement, on serait tous millionnaires et en bonne santé. Et c'est là que le passage de Jean 17, 14, 17, eh bien, a tout son sens. Parce qu'il nous parle vraiment de cette tension inéluctable, en fait, cette contradiction fondamentale entre ceux qui sont à Christ et le monde. Et ça, c'est ce que Jésus enseigne tout au long des évangiles. Et notamment dans Luc 14, 25, 35. Et là, je vais le lire lentement, contrairement à mon habitude, pour bien entendre ce que Jésus veut dire. Parce que ça doit être pris au sérieux. Pour moi, c'est contractuel. Donc, Luc 14, 25, 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire ». Il n'a même pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que le roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de nous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alors c'est un peu raide, c'est un peu radical. Mais c'est contractuel, comme je disais, c'est vraiment les clauses d'éligibilité d'un contrat. C'est-à-dire tous ceux qui s'engagent à suivre Jésus doivent savoir ce qui les attend et accepter les conditions. Sinon, c'est l'échec, comme ce roi qui se rend à son ennemi. Parce que c'est ça, envoyer une ambassade de paix, ça veut dire qu'il se rend. Et à l'époque, quand Jésus prenait ses exemples, tout le monde comprenait bien ce dont il était question. Tout le monde comprenait à quoi il s'engageait s'il devenait disciple de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus avait si peu de vrais disciples, même s'il y avait, comme dit le texte, une foule nombreuse qu'il suivait, qu'il écoutait, qui attendait qu'il fasse des miracles spectaculaires, mais qui n'était pas prête à le suivre, et qui a été prête après à exiger sa crucifixion. Jésus, lui, ne trompe personne. Il ne promet pas des merveilles. Hein. Il demande un engagement en pleine connaissance de cause. Et il conseille même de bien réfléchir et de bien calculer. Parce que pour que le coût de ce qu'on veut faire avant de s'engager, eh bien, ne soit pas supérieur à ce que nous on veut investir, si vous voulez. De peur de ne pas aller jusqu'au bout. De peur de ne pas le suivre jusqu'au bout. Et il y a de nombreux passages qui nous préviennent clairement. Mais parfois, on a vraiment des œillères, en fait. On lit la parole, mais on comprend à notre manière, ou suivant une tradition, ou comme ça nous arrange. Et on parle beaucoup, donc, dans nos milieux évangéliques, et pas seulement, hein, de la grâce qu'offre Jésus, du pardon gratuit, des bénédictions de Dieu. Et ça, c'est fondamental, c'est très bien. Parce que c'est vrai, on en a tout à fait besoin. On a besoin de son amour, de ses bontés pour vivre. Mais souvent, on passe sous silence ce que coûte l'évangile. Le salut est gratuit, mais suivre Christ coûte. Et si on met de côté cette réalité, eh bien on perd un élément essentiel d'une vraie vie chrétienne. Et on passe certainement à côté des plans du Seigneur pour nous. Je me rappelle en disant ça, que j'avais déjà dit dans une autre prédication qu'on n'est pas sauvé pour se faire plaisir, pour être heureux, pour se sentir bien, mais on est sauvé pour servir. Et il y avait quelqu'un de l'Assemblée qui m'a dit après coup qu'il était bien embêté parce qu'il ne savait pas s'il avait sa place à l'Église. Parce que lui, il venait au culte parce que ça lui fait du bien. Alors, heureusement que ça nous fait du bien d'être chrétien. Heureusement, ça nous fait du bien d'être sauvé, d'être pardonné. Ça nous fait du bien de venir au culte, de voir les frères et sœurs. Mais ça, c'est que le début de la vie chrétienne. C'est qu'une partie de la vie chrétienne. Et c'est certainement pas le but ultime. Le but, c'est servir la gloire de Dieu. Et servir Christ, suivre Christ, c'est mourir à soi-même. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Et c'est à ça que Christ nous demande de nous engager avant même de vivre pour lui. Et on voit dans Marc 8, au verset 34-37, pas la peine de chercher, il y a de nombreuses références, mais... Et c'est encore une fois le même thème qui revient dans un autre évangile. Et on nous dit que Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? » Donc c'est toujours le même thème, c'est presque les mêmes mots. On ne pourra pas dire qu'on n'avait pas compris. Et donc si on écoute attentivement ce que dit Jésus, eh bien la vie chrétienne est loin d'être gratuite. Au contraire, quand on choisit de suivre Jésus, ça peut nous coûter cher, ça peut nous coûter même tout. Et contrairement à la manière dont on présente les choses, à ce qu'on annonce à celui qui s'approche du Seigneur, bien la vie chrétienne n'est pas la promesse d'une vie plus agréable. Jésus nous promet, lui, et il prévoit en tout cas, de grandes souffrances. Alors vous allez me dire, c'est paradoxal. C'est paradoxal, la vie, découvrir le Seigneur, c'est une bonne nouvelle, c'est une libération, c'est le pardon, on accède à une autre... réalité et qui est bien meilleure que celle dans laquelle on vivait lorsqu'on était dans le monde. mais il faut savoir à quoi s'en tenir. Et il y a cet autre passage de Matthieu 24 où Jésus nous dit, et c'est toujours la même chose, alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront et alors ils se trahiront et ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la provocation du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le passage parle de faux prophètes. C'est quoi un faux prophète? Déjà, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, dans des circonstances particulières, qui enseigne la parole et la volonté de Dieu. Le faux prophète, c'est l'inverse. C'est celui qui ne parle pas de la part de Dieu, qui dit ce qu'on veut entendre ou ce que les humains pensent. Et donc, il y a tromperie. Et ça commence à partir du moment où on ne prend pas en compte toute la parole de Dieu. Pas la prendre à la lettre, parce que ça donne du légalisme, et c'est mortel spirituellement, mais selon l'esprit de la parole, qui donne du sens, qui donne la vie. La parole, ta parole est la vérité. On a lu ça dans Jean 17. Et donc dans la parole, eh bien la souffrance, la persécution, le rejet, l'épreuve, sont clairement liés à l'engagement sincère avec Dieu. Mais il y a du positif, parce qu'autrement je vais vous perdre. Et heureusement il y a du positif, et qui compense largement au-delà de tout ce qu'on peut endurer. Alors c'est dans Luc 6, verset 26. « Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. » Le positif vient après. Donc toujours dans Luc 6. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme, à cause de Jésus. Réjouissez-vous en ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Alors, est-ce que c'est contradictoire? Oui, bien sûr, c'est contradictoire. Selon nos critères, selon notre manière de concevoir la vie, c'est complètement incompatible. C'est même un peu schizophrénique. Mais le Seigneur donne à ceux qui sont fidèles et qui traversent des épreuves jusqu'à la persécution parfois, à cause de son nom, eh bien, il leur donne cette joie, cette paix, cette force d'endurer parfois le pire et qui dépasse même l'entendement, qui est complètement incompréhensible. Alors juste une petite précision concernant ce que ça veut dire souffrir pour Christ. La souffrance, la croix que Jésus nous dit qu'il faut porter, ça c'est inévitable. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit être masochiste, qu'on doit chercher la souffrance pour elle-même. Ce n'est pas la souffrance qui purifie, comme dans certaines traditions, où on se flagelle pour être meilleur. Dieu n'aime pas nous voir souffrir, ça j'en suis certain. Mais il n'y a pas de combat sans souffrance. Ça me rappelle un couple chrétien qui était venu à l'église de Charleville il y a quelques années. Et on les avait invités pour faire connaissance avec Fabienne. Et donc, cette personne commence à dire que Dieu a parlé en songe à son mari de venir dans notre église. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient en dehors de toute église. Donc, ils ont eu un songe, ils sont venus à l'église de Charleville. Et ils étaient persécutés pour Christ. Elle avait dû quitter son travail parce que ses collègues ne supportaient plus qu'elle leur parle du Seigneur. Et même avec sa famille, c'était très difficile aussi parce qu'ils la rejetaient. Et pourtant, elle nous disait, à chaque fois que je les vois, je leur dis que s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. C'est pas ça, souffrir pour Christ. Ça, c'est quelqu'un qui souffre parce que c'est quelqu'un de pénible et d'insupportable et qui n'a pas la sagesse nécessaire pour témoigner de l'Évangile. C'est même un contre-témoignage. Ça fait plus de mal que de bien. Parce que, oui, même dans l'Église, elle était assez pénible, cette dame. elle avait des difficultés, on va dire. Alors imaginez pour sa famille et ses collègues, si elle commence, si à chaque fois qu'elle les voit, elle leur dit « Mais repentez-vous, autrement vous allez crier en enfer. » Pour eux, c'est incompréhensible. Et surtout, Jésus n'a pas prêché que tout le monde, que tous les affreux iront en enfer. Il a prêché avant tout la repentance et la rémission des péchés par la grâce. C'est ça qu'il faut prêcher. Et c'est ça que le monde ne veut pas entendre non plus. Et c'est ça qui souvent produit sa haine. Alors dans ce livre, Francis Chan donne des exemples de chrétiens persécutés qui vivent réellement dans leur chair parfois, ce que l'Évangile affirme. Donc il a visité des églises en Iran où il y a une très forte répression politique, hein, c'est vraiment la persécution. Et il y a des statistiques très fiables qui nous montrent que c'est là que les églises évangéliques augmentent le plus actuellement, le plus rapidement, et en nombre et en vitesse. Et donc dans ces églises en Iran, ceux qui veulent faire partie d'une église, eh bien, avant toute chose, ils signent une déclaration, c'est officiel, comme quoi ils sont prêts à perdre leurs biens, à être jetés en prison, à subir le martyre. Ça, c'est un mot qui nous semble complètement étrange, mais c'est tout à fait biblique. C'est-à-dire à mourir pour leur foi. Et il fait le parallèle avec nos églises, avec son église aux États-Unis. Évidemment, nous, ça ne nous concerne pas du tout. Hein. Donc avec certaines églises où on met un temps fou à se décider si oui ou non on va suivre le Seigneur, si on s'engage, si on renonce à nos péchés, à notre vie dans le monde pour suivre Christ ou pas, on se tâte. Hein. Ou bien si on va réussir à caser la réunion de prière dans notre planning, parce qu'on n'a peut-être pas le temps. Ces chrétiens en Iran ne se posent pas ce genre de questions. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le temps. Eux, ils calquent leur vie sur l'enseignement de Jésus. S'ils veulent le suivre, parce qu'ils sont touchés par son amour et sa grâce, et pour eux, ça a un sens, ça a une puissance, eh bien, ils savent qu'ils vont automatiquement payer le prix fort. Et c'est ça, cette consécration, cette sanctification, c'est-à-dire tout pour Christ. Et ça, c'est pas l'aboutissement d'une longue vie spirituelle comme nous, parfois, on peut le présenter dans nos églises. Voilà, on a du niveau, on a 30 ans de vie chrétienne derrière nous. Non, c'est pas ça. Pour eux, c'est la condition préalable pour être chrétien. Vous voyez un peu le décalage. Il donne un autre exemple qui rejoint les témoignages qu'on avait dans les documents de Portes Ouvertes. Donc, il était en Chine il y a quelques années, apparemment, dans une église souterraine. Souterraine au sens illégal, pas déclaré, et donc en mauvaise posture. Et quand il demandait aux uns et aux autres ce qu'ils vivaient comme persécution, eh bien, il était étonné parce que tout le monde avait une anecdote. Il y en avait qui avaient dû s'enfuir parce qu'on leur tirait à balles réelles dessus. Il y en avait d'autres qui avaient dû se cacher dans des endroits invraisemblables pour ne pas finir en prison. Il y en avait d'autres qui jouaient au chat et à la souris avec la police presque tous les jours. Mais ces chrétiens-là racontaient ça comme si c'était presque un jeu. Ils étaient heureux, ils riaient. C'était normal, ils s'y attendaient. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'ils sont complètement fous, ces Chinois ? Moi, je pense que leur joie venait plutôt de ce que, malgré tout ça, malgré l'opposition, et justement, à plus forte raison, à cause de ça, eh bien, ils témoignaient d'autant plus de l'Évangile et de ce que Dieu faisait dans leur vie. Et c'est ça qui fait les églises vivantes, même si c'est un paradoxe. Il y a un pasteur chinois, donc, de ces églises, qui lui racontait qu'à une certaine période, il y avait eu un peu plus de liberté. Le régime avait lâché un peu la bride. Et donc, ils ont voulu avoir de vraies églises, avec pignon sur rue, des beaux bâtiments. Alors, dans un premier temps, c'était merveilleux. L'église a grandi, il y avait des centaines de membres. Mais très vite, il s'est aperçu que les gens ne venaient plus que pour écouter des belles prédications, dans une belle église, dans des sièges confortables, mais qui ne faisaient plus rien pour le Seigneur. Il n'y avait plus de témoignages personnels, il n'y avait plus de motivation pour les réunions. Et du coup, il disait qu'il avait été tout heureux quand la répression a repris. Et donc, Francis Chan rapporte que quand lui, de son côté, racontait un peu comment ça se passait dans son église aux États-Unis, eh bien là aussi, les Chinois riaient encore. Ils ont un super sens de l'humour, les Chinois. Ça les faisait rire parce que il disait que pendant quelques temps, justement, pendant cette période de légère liberté, eh bien, on aurait pu croire qu'ils étaient devenus, eux aussi, une église américaine, bien confortable, Avec où la question au conseil, c'était de savoir si on avait assez de place sur le parking ou la qualité du vidéoprojecteur, avec le risque évident de perdre le message que Christ nous confie. Alors pour résumer, Francis Chan, toujours, a une belle métaphore. Il dit que l'Église, c'est comme un zoo. Un zoo. Z-O-O, avec des animaux. Donc l'Église, c'est un zoo. Et pas à cause des drôles d'animaux qu'on y croise, hein. Parfois, un peu quand même. Mais le zoo, c'est quoi? En fait, c'est un milieu artificiel où on prend soin des animaux sauvages, qui sont parfois en danger d'extinction, qui sont dans des pays où ils n'ont pas forcément les moyens de vivre comme ils devraient vivre normalement. Et tous leurs besoins sont pourvus. Ils ont des soins médicaux, ils ont toute la nourriture qu'ils veulent, ils ont de la protection. On fait même de l'enrichissement de milieu, c'est-à-dire des sortes d'animations pour ne pas qu'ils s'ennuient, qu'ils dépriment. On prend vraiment soin d'eux. Mais leur vraie nature à ces bestioles-là, à ces animaux, eh bien, ce serait d'être en réalité dans le monde sauvage, avec tous ces dangers, toutes ces souffrances, avec les prédateurs qui rôdent, une vie de lutte et de danger, mais ils sont faits pour ça, par nature. Eh bien, l'Église, pour lui, nos églises, ce sont des eaux. Et d'après lui, les chrétiens ne sont pas faits du tout pour vivre bien au chaud, assis sur leur chaise, dans une belle église, mais pour être, comme nous dit Jésus, dans le monde, et lutter, et proclamer l'évangile de Christ crucifié, à n'importe quel prix. Alors, c'est peut-être excessif, faites-vous votre opinion, mais moi, je pense que l'idée est juste. Je dirais qu'on doit vivre dans l'Église avec cet engagement et cette consécration et cette sanctification dont parle Jean 17, 14, 17. On doit rester dans le monde, sinon comment les autres qui sont du monde entendront-ils parler de Christ? Rappelez-vous dans le documentaire de Portes Ouvertes, cet homme qui disait qu'il avait été emprisonné en Iran, je crois, et qui racontait que pendant des mois, il s'est plaint en demandant à Dieu « Mais pourquoi ?» Il s'est même culpabilisé en disant « Mais quelle faute j'ai fait, quel péché j'ai commis pour en être là, pour en arriver là, pour mériter ça ?» Et il n'avait pas de réponse. Jusqu'à ce qu'il réalise que les autres détenus, ils avaient désespérément besoin d'entendre l'Évangile, et que si lui n'était pas dans la prison avec eux, il ne pouvait pas leur annoncer l'Évangile. Il n'y a pas d'aumônier chrétien là-bas. Et donc là, il a témoigné et il a expérimenté cette joie qu'il y a à servir le Seigneur, même au fin fond d'une prison iranienne, même dans la souffrance, même en ayant tout perdu. C'est ça, en fait, vivre dans le monde en n'étant pas du monde, pour glorifier et servir le Seigneur. Alors nous, évidemment, on ne risque pas ça. On ne risque pas la prison, jusqu'à la dernière nouvelle, il n'y a pas les policiers qui nous attendent à la sortie, on ne risque pas de se faire tirer dessus parce qu'on est chrétien. Mais on doit vivre avec cet état d'esprit, avec cette attitude, avec ce zèle, cette consécration que nos frères et nos sœurs dans la persécution vivent. Nous sommes dans le monde, avec tout ce que ça implique, mais surtout on a une mission qui donne un sens à tout ce qu'on endure, témoigner de Christ, en devenant semblable à lui, afin de glorifier Dieu dans nos vies. Et j'aimerais finir avec un verset de Philippiens 3, verset 10, où on nous dit « Ainsi, l'apôtre vient de parler de tout ce qu'il endure, de toutes les souffrances, de toute sa vie de privation, de sacrifice, et il conclut en disant « Ainsi, c'est-à-dire de cette manière, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort. » Je vous propose de prier, si quelqu'un a à cœur de prier.
Seigneur mon Dieu. Merci pour ce message, merci Seigneur de nous avoir rappelé toutes ces choses. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons nous identifier à nos frères et sœurs. Nous voulons aussi écouter ta parole, la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous que nous soyons vraiment consacrés pour toi, que nos cœurs soient vraiment brûlants pour toi et que chaque jour nous cherchons ta face et ta volonté, Seigneur. Que ni personne ni rien ne nous retient dans la peur ou dans l'angoisse, parce que nous savons que tu es avec nous, tu es devant nous. Et Seigneur, que nous puissions vraiment te suivre, route que route, quoi qu'il arrive, Seigneur, et faire ta volonté. Sois encore béni, Seigneur. Aide-nous vraiment à appliquer ce que nous avons attendu ce matin et à prendre position pour toi, Seigneur, pour la gloire de toi.
Amen. Je vais faire les annonces, puis après il y aura peut-être quelque chose si vous voulez. Si le dixième de bien. Donc demain, réunion de prière chez Françoise à 14h, comme d'habitude. Il y a également la réunion de prière ici jeudi à 19h. La fin d'année approche et donc il y a l'atelier bougie qui va commencer bientôt. Là, il y a des prospectus à distribuer à droite à gauche, à afficher. Donc il va falloir qu'on s'organise. Charles a tout bien préparé, comme d'habitude. Il y a une belle carte, il y a des secteurs. Il n'y a plus qu'à se marquer son nom sur les secteurs qu'on veut prendre en charge. Tout est prêt là-bas. Donc à voir avec lui à la fin. Il y a aussi le concert de fin d'année, où le groupe Sophonie vient, le groupe Gospel qui avait chanté à Vernon-Poulière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ça vaut vraiment la peine d'inviter du monde, parce que déjà vocalement et techniquement, ils sont très très bien, il y a du niveau. Mais surtout, spirituellement, derrière, il y a un vrai message d'évangélisation, comme le veut le mot gospel, d'ailleurs. Et ça, franchement, il faut profiter de l'occasion. On aura la salle du Rex, toute neuve, toute propre, et il ne faut pas hésiter à inviter un maximum. Voilà. Mais bon, c'est dans un certain temps, mais ça se prépare.
Il y a toujours la boîte de porte ouverte.
Exact,
pour l'église, pour la sécurité. Je vous encourage de mettre de l'argent dedans pour eux. Et je vous ai apporté des côtes bêtes. Si vous avez envie, si vous avez des côtes de bêtes, vous pouvez vous servir.
Oui, c'est cohérent, moi je te dis. Tout est cohérent. Voilà, si vous voulez, on peut chanter quelques derniers chants. Quelques prières. J'ai soif de ta présence. On l'a déjà chanté la semaine dernière, mais la répétition est la mère de toute pédagogie. Moi j'ai 261.
bien, bon dimanche à tous.
Je ne sais même pas comment l'allumer. Ah oui, d'accord.